Donc, le paysage fiscal, beaucoup d'idées reçues et des mesures coûteuses, injustes et inefficaces, pour résumer. Et donc aujourd'hui, la situation, c'est que, pas simplement à cause de la dette, mais aussi parce que ça accélère le processus et puis la nécessité d'avoir une réforme fiscale, la réforme fiscale ne sera pas la clé de tout en matière de dette, c'est pas vrai. Et comme de toute façon, il faudra payer toute partie de la dette, soit on le fait en poursuivant tel que c'est fait, c'est-à-dire en augmentant la TVA, notamment la TVA à taux réduit, en continuant à baisser la fiscalité des patrimoines. Donc soit on sort de la crise avec un système qui est profondément inégalitaire et injuste, et c'est sur la base de ce système-là qu'il va falloir payer pendant un certain nombre d'années la dette, qui de toute façon, ça va perdurer. Donc ça sera socialement et économiquement contre-productif. Soit on dit, ben voilà, il faut une réforme fiscale pour déjà redonner du sens citoyen. Et redonner du, quand je dis du sens citoyen, c'est y compris les fondements, on va dire, du pacte social, pour faire court, qui sont quand même en jeu. C'est l'idée de consentement à l'impôt, c'est l'idée de vie en société, enfin, c'est aussi ça qui est en jeu au travers du débat sur la fiscalité. Et on voit bien qu'on ne peut plus aller dans cette direction-là, même si nous est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a aujourd'hui, à mon avis, une urgence, hein, c'est de contrer certains projets. L'un d'eux, vous connaissez, l'UMP a encore beaucoup communiqué là-dessus, est nommé TVA sociale. Alors, je reviens un instant sur ce que c'est que la TVA sociale, qu'ils ont rebaptisé habilement TVA anti-délocalisation, fiscalité anti-délocalisation. Mais à la base, la TVA sociale, c'est la chose suivante, c'est baisser les cotisations et augmenter la TVA. Et les partisans de la TVA sociale nous disent, si on baisse les cotisations, donc, la rémunération du travail pour la fabrication d'un bien, par exemple, on va baisser le prix de revient de ce bien. Parce que les cotisations, évidemment, sont répercutées dans le prix de revient. Et on nous dit, en baissant les cotisations, ça permettra d'avoir un produit à un prix de revient moins cher, ce qui sera bénéfique à l'exportation, parce que l'exportation n'est pas taxée à la TVA, ne supporte pas la TVA. Et pour ce qui est vendu en France, le fait d'augmenter la TVA sur un prix de revient qui diminue ne fera pas bouger le prix de toute taxe comprise. Parallèlement, on nous dit, du coup, on peut augmenter la TVA parce qu'on va se récupérer le manque à gagner des cotisations, et puis on va taxer les importations, notamment de ces affreux chinois, on connaît tous, et donc qui nous piquent nos industries. Et donc, on nous dit, ça fera financer la Sécu, ça fera, quelque part, les Chinois, les entreprises qui délocalisent, financeront aussi la Sécu française. Mais ce raisonnement théorique souffre de quelques imperfections. Lesquelles? Qui je suis pour. Enfin, là encore, il suffit de regarder un petit peu les chiffres et de voir la réalité fiscale, c'est quoi? C'est que quand on baisse un prélèvement, il n'est jamais intégralement répercuté dans le prix de revient. La TVA dans la restauration n'est pas d'exemple. On baisse la TVA, il n'y a que la moitié qui est répercutée, et encore la moitié officiellement, hein, parce que le taux de marge augmente. Voilà, tout simplement. Le taux de marge augmente, et le taux de marge, ben, c'est. Il est répercuté dans le prix de revient. Donc, si la baisse des cotisations n'est pas totalement répercutée dans le prix de revient, tac, alors l'augmentation de la TVA se traduira par une augmentation des prix. Et se traduira par une augmentation des prix que tout le monde paiera via la TVA, qui est un impôt qui pèse plus lourdement sur les budgets des ménages plus pauvres que sur ceux des budgets plus riches. De la même manière, il y a des choses qu'on ne produit pas en France. Je pense que si je regarde mes avis, ou plus, une bonne part qui se produit peut-être en Chine ou ailleurs. Et quand on les produit plus, de toute façon, on sera bien obligé de les acheter. Et donc, on sera bien obligé de supporter une hausse de la TVA sur ces achats-là. Vous avez également des secteurs où il n'y a pas de concurrence, ou très peu, où il y a des ententes. C'est illicite, mais ça existe, la téléphonie mobile, par exemple. Donc, on sait très bien qu'il y a une augmentation des prix, parce que l'effet concurrence, qui prétendument doit jouer à la baisse des prix, ne jouera pas dans certains secteurs. Vous avez des secteurs comme les industries qui ont déjà bénéficié d'allègements des cotisations sociales, qui ne pourront pas répercuter une nouvelle baisse. Parce qu'ils en sont déjà. Allégés, notamment du SMIC, des cotisations patronales. Et donc, s'ils ne peuvent pas répercuter une nouvelle baisse, alors l'augmentation de la TVA sur ce qu'ils produisent va se traduire par une augmentation des prix. Et donc, si on commence à regarder dans le détail, on s'aperçoit que le chemin théorique vertueux, il ne tient pas la route. Et d'ailleurs, au passage, ils s'en sont un peu aperçus parce qu'ils sont en train de redéfinir une TVA sociale qui en réalité n'est plus une vraie TVA sociale. Ils vont augmenter un peu la TVA, un peu la CSG, un peu l'impôt sur les sociétés. Curieusement, ils n'augmentent d'ailleurs que des prélèvements proportionnels, au passage, puisqu'il y a toujours l'objectif de ne pas corriger les inégalités par l'impôt. Mais on voit bien que sur ce schéma-là, il est porteur d'un vrai débat qui est le financement de la Sécu. Et là, c'est un débat qui peut être au sein d'Attac, par exemple, ne fait pas l'unanimité. Vous avez ceux qui disent que c'est une cotisation, et ceux, maintenant que je fais partie, qui disent non, il faut que toutes les richesses contribuent au financement de la Sécu, parce que la Sécu bénéficie à tout le monde. Je reprends ma rentière, Lydine Bettencourt, sans salaire, elle ne cotise pas à la Sécu, elle paye de la CG sur ses revenus de capitaux, heureusement. Mais sinon, elle est quand même remboursée, elle touche sa retraite, etc. Et il n'est pas anormal que toutes les richesses contribuent. Mais bon, voilà, il y a ces deux écoles-là. Derrière ça, c'est une vraie question hein, qui peut traverser la droite comme la gauche, mais c'est cette question, il y a d'autres formules pour avoir des ressources sociales plus justes. Alors, quelles sont maintenant les pistes pour la TVA sociale, pour continuer à s'amuser sur ceux qui veulent supprimer totalement l'ISF, en finir pour certains avec la progressivité de l'impôt sur le revenu qui veulent instaurer ce qu'on appelle la tour plat, la flat tax, c'est-à-dire absolument aucune redistribution par l'impôt et une augmentation de l'impôt pour les plus pauvres et un abaissement important pour les plus riches. Bon. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir aussi ce que la taxe peut porter et puis ce qu'on peut diffuser. Il y a plusieurs chantiers. Il y a déjà, je fais un tout rapide mot sur la fiscalité locale qui est trop souvent oubliée. Fiscalité locale, y compris dans mon exposé, j'ai peut-être déjà très loin, je m'en excuse, mais la fiscalité locale est profondément archaïque et injuste, et en plus complexe. Et on voit bien qu'à l'évidence, ce qu'on appelle la rénovation des bases est nécessaire. C'est un sujet politiquement explosif, et un Rocard en 90 n'a pas voulu acter un changement des bases parce qu'il y avait des perdants, et dans une réforme fiscale, de toute façon, il y a des perdants, des gagnants, et mais vous entendez que les perdants. Donc c'était une réforme explosive, et au nom de ce caractère explosif, on a laissé perdurer les inégalités au détriment notamment hein, des biens immobiliers qui se sont construits dans les années 50 et 60, qui ont été évalués plein pot, qui parfois se sont dégradés depuis, alors que certaines rénovations n'ont pas été totalement répercutées, on va dire, dans les impôts locaux. Bref, c'est un système qui est en bout de course. Alors qu'on a transféré aux collectivités locales un grand nombre de compétences, et on voit bien aujourd'hui qu'avec, qui plus est la réforme de la taxe professionnelle, maintenant qui s'appelle contribution économique territoriale, qui a été mise en œuvre avec une volonté affichée d'alléger la fiscalité sur les entreprises, ça se traduit par 5 milliards d'euros en moins, on comprend bien que le risque, il est de faire peser encore plus sur les ménages les impôts locaux, la charge des impôts locaux sur la base de ce qui existe, qui est injuste. Donc il y a un toilettage des impôts locaux à faire. Comment on peut faire? Nous, il y a une idée qu'on mettait au syndicat en débat, c'est de dire que lorsqu'on rentre dans un appartement ou une maison, en tant que locataire ou propriétaire, il y a une valeur vénale au moment où on rentre, et la valeur vénale, elle se traduit toujours par un loyer plus ou moins élevé, par un prix d'achat plus ou moins élevé. Et l'idée que la valeur vénale, vous où on rentre, soit la base de l'impôt local, mais que cet impôt local ne puisse pas évoluer plus vite que le revenu pour pas que les ménages soient victimes de la spéculation immobilière, c'est quelque chose qui nous paraissait assez fondé. On a mis ça au débat. Le projet qui est en cours répond à notre logique. Il y a, sur la partie de la contribution économique territoriale, une révision des bases. Comme on est au début de ce processus-là, je ne prononcerai pas, mais à l'évidence, sur la fiscalité locale, il y a en matière de base des impôts locaux, en matière de péréquation également, il y a une réécriture à faire. Sur les impôts d'État, quels sont les chantiers là? Je veux dire, le chantier, c'est déjà s'attaquer aux assiettes et notamment réduire le nombre de coûts des niches fiscales, notamment les plus injustes. Les plus injustes, c'est quoi? Pour l'impôt sur le revenu, c'est tout ce qui touche à la fiscalité de l'IPAM notamment, hein, tout ce qui est intérêt livré, etc., parce qu'une dimension est particulière, et puis il y a une utilité en termes de financement du logement social, en théorie. Pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, il y a tout le régime dont bénéficient les grands groupes qui représentent 66 milliards d'euros de manque à gagner par an. Sur les 66 milliards d'euros, je ne vais pas faire la discussion de marchand de papier, mais c'est bien le drame si on n'arrive pas à dégager 10, 15 ou même 30 supplémentaires sans mettre à mal les stratégies des grands groupes qui, paraît-il, nous sont indispensables pour notre compétitivité. Je fais un peu l'ironie, mais on sait qu'il y a des comportements d'optimisation qui ne se traduisent pas nécessairement par plus d'emplois. Mais on voit bien qu'il y a un bénéfice des niches fiscales sur les grands groupes et qu'il y a un pur effet de veine pour ces grands groupes-là. Et si on veut demain avoir, par exemple, une fiscalité sur les entreprises qui favorisent l'investissement, alors il faudra bien rééquilibrer les niveaux. Sans doute même, il faut l'annoncer, on peut imposer moins les PME et beaucoup plus les grands groupes, de sorte que l'impôt sur les sociétés rapporte beaucoup plus qu'aujourd'hui, dans le tour de 45 milliards d'euros. Ça serait donc un impôt un peu plus équitable, et on pourrait même jusqu'à différencier l'imposition des bénéfices. En clair, le bénéfice distribué en termes de dividendes, l'imposer plus que celui qui a investi. quelque chose qui aujourd'hui, quand on voit les dégâts de la financiarisation de la spéculation, semble de bon sens et qui est parfaitement faisable, techniquement parlant. Il y a le chantier de la sécurité du patrimoine. Là aussi, il ne faut pas défendre l'ISF tel qu'il existe aujourd'hui. Il faudrait plutôt plaider pour une réécriture de la fiscalité du patrimoine, qui soit articulée autour de la chose suivante. Si on considère que les ménages avaient des abattements, on pourrait dire que cet abattement peut être réparti sur deux choses, prioritairement sur l'habitation principale, la résidence principale, parce qu'au fond, la transmission de la résidence principale, c'est un enjeu pour les propriétaires, mais enfin pour aussi un grand nombre parmi eux de gens qui appartiennent aux classes moyennes. Et derrière ça, on pourrait imaginer un abattement complémentaire, je vous fais grâce des chiffres, mais de sorte que, globalement, ceux qui ont un petit patrimoine ne soient pas taxés. Et ensuite, construire une progressivité, tout simplement, pour imposer au fur et à mesure à la fois la détention de patrimoine sous une forme d'ISF rénové. Moi, j'ai fait un calcul. Si on commençait à imposer à 1 million d'euros les patrimoines de 1 million à 3 millions, 0,5%, il y a 1% des sans niches fiscales, ça rapporterait plus que l'ancien ISF qui lui-même rapportait 4 milliards d'euros. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Et en faisant ça, personne ne peut vous dire 1%, vous êtes sur un taux confiscatoire. Hein. Personne. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être accepté et en plus équitable. Donc ça fait partie des idées sur la TVA. À l'évidence, on ne peut pas se passer d'un impôt qui rapporte la moitié du budget de l'État. Mais il y a des améliorations qui peuvent être apportées. Des améliorations, c'est quoi? C'est par exemple créer un taux zéro sur quelques produits déjà de première nécessité. Ça représente pas un manque à gagner important. Et puis, il y a un débat qui est intéressant sur ce qu'on appelle les taux intermédiaires. Voilà. C'est-à-dire qu'un taux réduit à 5 ou 6%, un taux intermédiaire à 15 sur certaines opérations, et puis maintenant une TVA a besoin aussi de recettes, il faut bien le reconnaître. Mais si cette TVA se met en œuvre dans un contexte où l'impôt sur le revenu est rénové, je vais y revenir, l'impôt sur les sociétés ou les monnaies fiscales, alors la TVA est plus acceptable et elle est plus supportable. Et enfin, vous avez l'imposition des revenus, j'y reviendrai tellement le cadre de vos questions, vous savez qu'il y a des projets de fusion CGIR, etc. Ce qu'il faut voir dans tout projet de réforme fiscale s'agissant de l'impôt sur le revenu, la priorité, c'est qu'il rapporte plus. Voilà. Comment on fait, je le disais tout à l'heure, les niches fiscales, mais aussi une progressivité qui soit améliorée. On ne le sait pas, mais on a un des taux les plus élevés chez nous, il est à 41%. En Angleterre, il est à 50%, il est à 45% en Allemagne. Si on avait créé une tranche à 50% au-dessus de 100 000 euros, c'était 3-4 milliards d'euros par an. Donc il y a matière, sans jouer encore les grands révolutionnaires, dès demain, à faire un impôt sur le revenu qui tienne la route. Et dans le rapprochement avec la CSG, sur lequel on reviendra peut-être dans le cadre des questions, mais il faut bien, parce que c'est très intéressant, très technique et très complexe. Je me garderai bien d'être tranché pour ou contre là-dessus, parce que ça dépend vraiment comment il est mis en œuvre. Mais il y a deux priorités, c'est améliorer et meilleure progressivité d'un côté et sécuriser les ressources sociales de l'autre. Et enfin, il y a quand même quelque chose, et la taxe serait pas la taxe si je ne finissais pas sur l'aspect international. Il y a sur l'aspect international des projets qui sont assez intéressants à étudier au niveau de l'Europe. Parce qu'en Europe, on a laissé faire la concurrence fiscale et sociale, et en contradiction totale avec l'esprit initial de l'Europe, qui était quand même de mettre au pot commun. On aurait dû favoriser non pas l'uniformisation des systèmes fiscaux, mais une réelle convergence, si possible, en favorisant les impôts directs, les plus justes, etc. Et il y a des projets qui existent, techniquement, qui sont très peu connus, qui concernent par exemple l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Parce que dans l'impôt sur les sociétés, les multinationales, du fait de leur implantation dans divers pays, du fait de ce qu'on appelle le jeu des prix, des transferts, etc., des transferts de bénéfices, y compris vers les paradis fiscaux, mais de soi, au sein de l'Union européenne, ça leur permet, toutes ces opérations-là, en faisant des différences entre législations, d'économiser au niveau du groupe leur impôt. Et s'il y avait une harmonisation, toutes les études concordent, il n'y aurait pas de fuite vers l'étranger, parce que tous les groupes européens qui seront en concurrence paieraient un peu plus, mais ça neutraliserait. Mais simplement, ce qui plairait un peu plus, là, ce serait des ressources pour les États. Et on en a bien besoin. Et donc, ce projet d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés, il était initialement pensé de manière assez intelligente, avec des règles spécifiques pour les grands groupes, d'autres pour les petites et moyennes entreprises qui avaient une implantation unique à l'étranger. Malheureusement, déjà, il ne prévoyait pas un taux minimum. Donc, si on ne prévoit pas de taux minimum, ça n'a pas grand sens. Et ensuite, ben, il a été totalement perverti dernièrement. Ils ont instauré, ils proposent en ce moment il y a une discussion qui s'ouvre, là, ces jours-ci, et demain au Parlement, enfin, d'ailleurs, le prochain au Parlement européen, mais au travers d'un régime ultra simplifié, qui est optionnel. Et S'il est optionnel, ça veut dire que les grands groupes vont faire leur calcul. S'il est intéressant, ils vont le prendre. S'il n'est pas intéressant, ils ne vont pas le prendre. Donc, ça ne favorise pas l'harmonisation. C'est dommage parce qu'en matière d'impôt sur les sociétés, techniquement, il y a des choses qui sont déjà avancées. Enfin, il y a tout ce qui concerne la TVA, la coopération, l'imposition des revenus de l'épargne quand un Français a des comptes au Luxembourg aujourd'hui. Le fisc français ne sait toujours pas exactement combien il touche. Il faut un échange automatique d'informations. Là encore, il y a des projets, une directive qui a été contournée, qui a été adaptée, on va dire plus exactement. Mais il y a des textes qui existent qui montrent que techniquement c'est faisable. Et donc, on peut se baser sur ces textes-là, les améliorer, il faut le dire comme ça, mais c'est faisable. Au moment de la crise, c'est même urgent. Et puis, il y a cette fameuse taxe sur les transactions financières, notre héros, maintenant, est Nicolas Sarkozy. On a une discussion tout à l'heure à table, on disait qu'est-ce qu'il faut en penser? Ben, il faut en penser que déjà, elle est imparfaite, mais ce n'est pas tellement ça. Ce qui m'importe, c'est qu'elle valide ce qu'on peut dire à table depuis 1998. Tout comme ce qui s'est passé sur les paradis fiscaux valide ce qu'on a dit sur l'ampleur de la fraude, de l'évasion, du blanchiment, des délinquances financières de tout bois. Le poids des paradis fiscaux, pendant longtemps, on était un peu seul. Bon, ben, aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'effectivement, y compris dans la crise, ça a quand même joué un rôle. Que c'était la déréglementation financière, etc. Donc, cette taxe sur la transaction financière, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est faisable. Ce qu'on a dit depuis des années, et maintenant, dans les faits, on dit, ben oui, effectivement, c'est faisable. Alors, elle est sans doute imparfaite, et en plus de ça, elle ne va pas servir à sa raison d'être. Hein. Elle va, si ça se met en œuvre, alimenter les caisses de l'État, mais ça ne va pas favoriser l'aide au développement, d'autres solidarités. Mais restons sur un truc, c'est qu'il n'y a encore pas longtemps, on nous disait, c'est des doux rêveurs, ça ne se mettra jamais en place, et en plus, ce n'est pas faisable. On est peut-être des doux rêveurs, en tout cas, c'est techniquement faisable, et ça rapportera quand même des sous. Donc, j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais c'est vrai que dès qu'on commence, voilà. Ce qu'il faut retenir autour du BAFIC, vous aurez compris qu'au fond, c'est que deux questions, hein. C'est combien il faut d'argent et ensuite qui paye. Mais le qui paye n'est pas neutre, parce qu'il n'y a pas de société sans impôts, mais il n'y a pas de société juste, il n'y a pas d'impôt juste.